Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Alors, c'est pourquoi ?
Par curiosité, pour voir. C'est pour ça que je t'ai suivi, bonhomme.
Curiosité, l'info locale autrement. C'est sur Canal B du lundi au vendredi à 17h40 et en rediffusion le lendemain à 9h40.
Samuel Dugas, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes agriculteur dans le département et puis tête de liste aux élections professionnelles agricoles qui ont débuté, en fait, c'est du 15 au 31 janvier. Et vous, vous êtes tête de liste pour la Confédération Paysanne d'Ille-et-Vilaine, un syndicat qu'on a déjà reçu sur cette antenne et qui défend une agriculture durable pour l'environnement et pour ses paysans. On va expliquer les enjeux de ces élections et parler de la façon originale dont vous communiquez sur le sujet. Mais j'ai envie de commencer par parler du concret, à savoir votre quotidien hors de votre engagement syndical. C'est donc d'abord votre travail d'agriculteur à l'est du département. On plante un peu le décor pour les auditeurs.
Oui, donc c'est un village qui s'appelle Baie. Donc on est situé c'est ça, dans le sud-est du département, entre Vitré et La Guerche. Donc moi, je suis installé avec Lydia, ma femme, et nous avons 50 hectares tout en herbe. On a un troupeau de vaches laitières et un troupeau de brebis allaitantes. Voilà, puis on fait un peu de jus de pomme et de cidre.
Cette ferme, c'était celle de vos parents ?
Oui, voilà. Alors, donc c'est la 18e génération.
Depuis le 19e siècle, je crois, vous êtes remonté un peu ?
Oui, c'était une blague. Donc, 4e génération. Oui. C'est ça. Il n'y en a plus tant que ça, hein, des fils d'agriculteurs et d'agricultrices qui reprennent la ferme familiale. Moi, c'était mon cas. C'était une de mes motivations.
Vous avez repris cette ferme, mais en changeant petit à petit de modèle. Comment est-ce que ça s'est opéré, cette évolution ?
Oui, voilà. Donc, c'était une ferme assez classique à l'époque. Un tiers d'herbe, un tiers de maïs et puis un tiers de blé. Moi, je savais que je voulais faire le moins de tracteurs possible. Et grâce au maillage associatif dans l'Ouest, hein, on a la chance d'avoir dans le milieu agricole. Donc très vite, avant même de m'installer, hein, j'ai rejoint l'ADAGE, donc une association membre du réseau CIVAM. Ça veut dire ADAGE, agriculture durable par l'autonomie, la gestion et l'environnement. Et donc là, j'ai trouvé un groupe qui sont devenus des amis et surtout qui m'ont épaulé dans le changement de système pour aller vers plus de prairies. Voilà, pour faire pâturer au maximum. J'avais pas forcément de modèle déjà de mes parents ou autour dans mon village. Mais voilà, grâce à ces groupes tels que l'ADAGE, j'ai pu assez vite changer mes pratiques et puis être bien dans mes baskets et tirer la ferme à mon image, quoi.
Vous avez arrêté le maïs sans silage, vous êtes allé vers du tout à l'herbe en développant les prairies sur votre exploitation. L'un des grands symboles, c'est aussi que vous avez quitté Lactalis. Ça a été compliqué ce changement ?
Pour moi, ça a été assez simple parce que j'ai respecté mon contrat. C'est-à-dire que, effectivement, quand je me suis installé en 2007, je ne me suis pas tant posé de questions de ça. Je voyais bien qu'il y avait un dossier là, mais j'avais autre chose à m'occuper. Déjà, reprendre la ferme, faire en sorte que ça marche. Et puis, c'est ça, comme je vous ai dit, développer le système pâturant, etc. Maintenant, plus ça allait, plus je me suis rendu compte à quel point le Lactalis était un prédateur de la valeur et puis était respectueux, hein, même au quotidien avec les chauffeurs, ça se passe. C'est pas très bien. Et donc, moi, j'ai respecté mon contrat dans le sens où j'ai fait une conversion bio avec eux. Pendant les 2 ans de conversion, j'ai eu une prime de 30 euros les 1000 litres. En contrepartie, je devais m'engager à livrer le lait à Lactalis en bio pendant 5 ans. C'est ce que j'ai fait. Et à l'issue, alors 6 mois avant, j'ai envoyé un préavis, mais à l'issue de ces 5 ans-là, grâce à Biolay, j'ai trouvé une alternative pour me faire collecter mon lait par quelqu'un d'autre que Lactalis. Et ça, c'est une vraie fierté d'avoir quitté cette caricature de l'industrie qui méprise et qui ne respecte pas du tout ses éleveuses et ses éleveurs.
Pour expliquer un petit peu très concrètement ce que le changement de modèle là, que vous avez initié, il change dans votre quotidien. Vous avez donc des vaches laitières et la particularité, c'est que vous ne pratiquez la traite qu'une fois par jour et que vous gardez aussi quelques veaux sous leur mère. Est-ce que c'est des choix qui sont à contre-courant aujourd'hui ?
Non, au contraire, la monotraite, moi-même en m'installant, mais je ne connaissais même pas le concept. Et puis voilà, au fil de l'eau, notamment grâce aux implications dans les associations, on rencontre des éleveurs qui pratiquent la monotraite. En tant que soi, c'est une technique à part entière et on peut avoir des vélages toute l'année et faire la monotraite. Donc là, moi, pour moi, ça a été un peu une révolution, mais oui, une révélation et une révolution, dans le sens où j'en avais marre, la traite le matin et le soir, quasiment toute l'année, évidemment, avec deux semaines et demie max de vacances, mais sinon, c'était comme un étau, en fait, trait du matin, trait du soir. Donc ça privait, je voyais bien, il y a plein de moments associatifs qui arrivent, de moments familiaux, on a deux filles, et puis ça commençait vraiment à me peser, alors quand j'ai touché à ça, à la monotraite, moi ça a été vraiment une forme de libération, et donc là aujourd'hui je fais ma traite le matin, et l'après-midi, et surtout le soir, j'organise ma journée comme je veux.
Le fait de garder des veaux sous leur mère, ça, on imagine que c'est dans une réflexion liée au bien-être animal, ça a une répercussion économique, on y perd quand on fait ça ?
Oui. Autant j'ai aucun mal, j'assume complètement le fait d'envoyer des animaux à l'abattoir quand ils ont eu une bonne carrière, où j'ai respecté leurs besoins physiologiques, et je les envoie à l'abattoir où ils sont dans un état d'engraissement très bon et c'est très cohérent. J'ai pas de problème avec ça, avec la mort. Autant séparer le veau de sa mère, on entend vraiment concrètement le mal-être du mammifère auquel on enlève son veau. Donc j'ai laissé les veaux sous la mer. Maintenant, effectivement, dans un élevage laitier, si on laisse le veau pendant les 4 premiers mois, on n'a plus de lait. Donc là, je suis en train de trouver un compromis où j'enlève mes veaux à 15 jours, à 3 semaines. Et puis après, je garde le lait pour moi, pour payer les factures.
On arrive donc à ce qui vous amène en studio aujourd'hui, à savoir des élections professionnelles agricoles qui se déroulent du 15 au 31 janvier. Vous êtes tête de liste pour la Confédération paysanne. Vous avez rejoint ce syndicat agricole assez récemment. Là, c'est un engagement supplémentaire de vous présenter comme tête de liste.
Oui. Alors, depuis le départ, j'étais à la Confédération paysanne, comme à l'adage, en fait, depuis le départ. Mais effectivement, en tant qu'adhérent de base, qui participait quand il pouvait à des actions. Et là, effectivement, c'est un pas supplémentaire où je me retrouve bombardé tête de liste. Mais c'est un honneur. Puis surtout, c'est un travail d'équipe. Là, il se trouve que je suis à la tête de gondole. Mais c'est vraiment le travail d'un collectif. En ce moment... La Confédération paysanne, il y a, je pense, depuis longtemps, une belle énergie, un respect, une bienveillance et une culture de l'éducation populaire où on se respecte, on s'écoute les uns les autres et un fonctionnement horizontal qui fait du bien à tout le monde et surtout qui permet de sortir de cette intelligence collective des propositions cohérentes et qui ont du sens et qui ont des racines fortes et qui fait qu'on a une proposition de loin, vraiment de loin la plus étayée dans le cadre de ces élections chambres.
Vous parlez d'éducation populaire, je pense que la Confédération paysanne a aussi cette qualité d'organiser beaucoup de choses pour parler du sujet de l'agriculture hors du champ professionnel à l'ensemble des citoyens. C'est le moment donc où il faut qu'on redise aux auditeurs à quoi elles servent ces élections professionnelles, peut-être un peu plus médiatisées cette année que d'habitude dans la foulée du mouvement social des agriculteurs qui avait lieu l'année dernière.
Un peu plus, mais on rame quand même quand on sollicite les médias, on a du mal à les faire venir. Il y a le paysan breton qui fait le job là à peu près, mais autrement, c'est pas fou. On doit vraiment insister pour les faire venir à nos diverses sollicitations, malgré tous les efforts qu'on procure pour créer des moments justement intéressants. Alors, c'est pas fini, on a encore 15 jours là. Donc, c'est un appel là que je donne à Ouest France, anciennement France Bleu là, ici. Vraiment, je pense que ça, c'est votre travail. Là, c'est un enjeu hyper important, pas que pour les agricultrices et les agriculteurs, mais pour toute la société. On est vraiment à un moment charnière. Donc, vraiment, c'est votre boulot là de nous donner le micro. Et avec bien sûr nos collègues de la CR, de la FEDESIO.
Donc là, les votes par correspondance ont déjà débuté, ça se déroule jusqu'au 31 janvier. Ces élections, elles visent à élire les membres des 88 chambres d'agriculture départementale et régionale, tout ça pour une durée de 6 ans. La petite particularité, c'est qu'il y a donc plusieurs collèges, et le collège le plus important, c'est celui des chefs d'exploitation qui comprend la moitié des élus.
Oui, effectivement, le collège 1, c'est le plus important. On a 18 sièges, là, le collège 1. Et donc, faut savoir que la Chambre régionale de Bretagne, elle a quand même un budget de 60 millions d'euros, donc c'est pas rien. Il y a 20 millions d'euros qui sont pour l'équipe de près de 400 salariés. Donc les chambres d'agriculture ont pour mission de représenter les paysannes et les paysans auprès des institutions publiques et surtout d'accompagner chaque ferme dans son développement, dans ses transitions. Enfin, c'est vraiment un rôle important et surtout c'est pour 6 ans, c'est un mandat de 6 ans. Donc évidemment, c'est pas l'alpha et l'oméga du changement de la société, mais c'est un des leviers dans l'époque dans laquelle on vit, on peut pas le négliger.
Alors aujourd'hui, c'est la FNSEA, Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, qui est le syndicat agricole majoritaire dans les chambres d'agriculture. La Confédération Paysanne et la Coordination Rurale se partagent ensuite le reste des scrutins, en tout cas lors des dernières élections, avec à peu près 20% des suffrages chacun. Il y a ce mode d'attribution des sièges qui rend en fait les choses un peu compliquées pour ceux qui ne sont pas premiers.
Oui, alors là, on ne va pas modifier le mode du scrutin parce que c'est trop tard. Par contre...
C'est un message que vous portez.
Par contre, évidemment, et puis on va tout faire quand on aura un maximum de chambres, on va tout faire pour changer le mode du scrutin. Donc là, pour faire simple, le majoritaire, hop, il a d'entrée de jeu 50% des sièges. Et après, le reste, on se partage ça à la proportionnelle. Mais ce qui fait que... Enfin, c'est complètement verrouillé. Et ce qui fait que là, la FNSEA détient... près de 98% des chambres. Donc, ce n'est pas du tout représentatif des votes des paysannes et des paysans.
La Confédération paysanne est à la tête d'une chambre d'agriculture sur le territoire français.
Mayotte, oui.
Donc, sur un territoire actuellement en souffrance, on le redit, oui. Suite au cyclone Chido mi-décembre qui a complètement dévasté les infrastructures sur place. C'est le moment où je glisse que, suite à un rendez-vous avec le Premier ministre, François Bayrou, il y aurait des engagements qui auraient été pris pour renouveler des aides aux agriculteurs qui ont été sinistrés sur place. Une autre donnée importante, c'est ce taux d'abstention, 45% lors des dernières élections. C'est donc plutôt à ces agriculteurs et agricultrices-là que vous vous adressez pendant la campagne électorale en ce moment ? Ceux qui ne votent pas ?
Oui, et puis jusque-là, parmi toutes les élections qui sont organisées en France, c'était un taux d'abstention relativement faible. Là, il y a un vrai danger pour que ce taux monte, parce qu'il y a une forme de fatigue. Peut-être les paysannes et les paysans sont... par moments désabusés et voit la chambre d'agriculture comme une antichambre de l'industrie, ce qu'elle est quand elle est aux mains de la FNSEA. Mais justement, c'est un des leviers, ce vote, pour faire changer des choses, en tout cas pour faire évoluer le rapport de force. Et là, la conf nationalement, enfin, on a une vraie ambition, parce qu'il y a une vraie prise de conscience du fait que la FNSEA, c'est un peu devenu une caricature. Enfin, quand on voit M. Rousseau aujourd'hui, voilà, à la tête d'une firme comme Avril, Sophie Protéol, bon, c'est pas crédible. Et évidemment, là, je parle des représentants de la FNSEA et pas des adhérents de base de la FNSEA, qui sont nos collègues et qu'on respecte tout à fait, et qu'on appelle aujourd'hui à voter pour nous.
Vous défendrez plusieurs mesures si vous êtes élu à la tête de chambre d'agriculture. Je cite quelques-unes de ces mesures, la sortie des accords de libre-échange, des aides européennes en faveur de l'agriculture paysanne ou encore l'interdiction des surmarges sur le bio qu'on peut observer dans les grandes surfaces. La mesure peut-être emblématique, c'est celle des prix minimums que vous défendez depuis un moment.
Oui, voilà. Donc, c'est des prix minimum garantis. Hein. On peut déjà peut-être expliquer la construction de ces prix minimum garantis. D'abord, on définit un indicateur coût de production en s'appuyant sur des références définies, par exemple, par les instituts d'élevage, hein, auxquelles on rajoute la rémunération, qui a un SMIC minimum. Ce n'est pas une fin en soi, hein, d'avoir le SMIC, mais c'est pour qu'enfin, on interdise que les paysannes et les paysans soient payés en dessous du SMIC, hein, ce qui est le cas aujourd'hui. Hein. Et donc ensuite, on rajoute, pour définir ce prix minimum garanti, une protection sociale, hein, qui est digne aujourd'hui, hein, on a un peu une protection sociale de misère. Mais donc voilà, le mécanisme de la construction de cette prix minimum garanti, qui est très simple à faire, ça existe déjà d'ailleurs. Quand des agriculteurs vendent du gaz issu de leur méthaniseur, eh ben, y a un prix garanti. Donc quelle est cette logique insensée qui garantit des prix minimums pour l'énergie, mais pas pour l'alimentation ?
J'ai aussi cité la question des accords de libre-échange. On pense évidemment à l'accord qui pourrait être passé entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud, donc avec cet accord du Mercosur. Vous y êtes opposé, je crois, comme la coordination rurale d'ailleurs, sur cette question-là.
Oui, oui, bien sûr. Le Mercosur, en fait, c'est qu'une calamité de plus au milieu de beaucoup d'autres. En fait, ça fait depuis plus de 15 ans que l'Europe signe des accords de libre-échange à tour de bras, hein, avec le Canada, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Vietnam, le Kenya, etc. Et ça nous met en concurrence avec des méga-fermes à plusieurs centaines de milliers d'hectares. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on importe plus de 45% de notre consommation de volaille, 56% de celle de viande ovine, on importe 71% de notre consommation de fruits, 50% de légumes, je pourrais continuer comme ça. Ben, c'est comme si, en fait, on avait sacrifié l'agriculture sur l'autel du libre-échange, voilà, pour exporter un peu des produits industriels. Là-dessus, la Confédération paysanne, elle est claire depuis très longtemps. On est contre tous les accords de libre-échange pour protéger notre agriculture.
La FNSEA, pour le coup, a une position qui bouge contradictoire sur le sujet.
Oui, non, mais c'est une blague, ils sont pas crédibles.
Ils y sont à la fois opposés, mais...
Ouais, mais avec des aménagements, peut-être, avec des clauses miroirs qui sont absolument pas tenables, et puis... La FNSEA est le chantre du libre-échange et vise les exportations.
La Confédération paysanne d'Ille-et-Vilaine communique donc en ce moment sur les élections professionnelles agricoles. Les résultats seront connus à la fin du mois. Donc on le redit, les chambres d'agriculture, là, dont vont être élus les nouveaux membres, c'est un organisme financé par l'État avec plusieurs missions, améliorer la performance, accompagner la démarche entrepreneuriale des agriculteurs, contribuer au développement durable aussi, c'est dans les missions, ou encore assurer la représentation des agriculteurs. Vous organisez une soirée festive cette semaine. C'est une première d'organiser un événement de ce genre-là pour parler des élections professionnelles agricoles.
Oui, je reviens juste sur le financement de la Chambre régionale d'agriculture. C'est alors en partie financé par l'État, mais surtout financé par les taxes sur le foncier non bâti. Hein, il y a aussi les prestations réalisées par les chambres qui alimentent le budget, des subventions. Enfin, en gros, c'est notre argent. Hein, c'est l'argent des agricultrices et des agriculteurs qui financent notre Chambre régionale. Donc, d'où l'importance de qui va piloter et qui va orienter et comment on va orienter cet argent. Là, hein, qui est le nôtre. Alors oui, ce FESNOS, c'est une innovation, une parmi d'autres, parce qu'on est un peu le syndicat de la joie et de la lutte par la joie. On ne se résigne pas, on n'est pas impuissant. Et le combat, ça demande aussi des fois le carburant du vivre ensemble, de danser ensemble et de faire la fête. Donc là, on invite tout le monde, hein, pas que les paysannes et les paysans, hein, toute la société, à un FESNOS de campagne. Donc ça se passe à la Chapelle Toireau, ce vendredi, là, vendredi 17 janvier.
C'est à 20 minutes de Rennes, voilà, à peu près.
Ça démarre à 20h, et puis avec des têtes d'affiche, hein, notamment le duo Boutillier-Couchou, il y a le duo Morinière-Gorée, et il y a Grégail.
Et voilà. Les Fièvres de lait, un groupe d'éleveurs dont je crois vous faites partie.
Oui, absolument.
Comment il s'est monté ce groupe ?
Au départ, ça a démarré pour animer des moments de rencontres paysans. Et puis aujourd'hui, voilà, c'est composé de 5 éleveuses et éleveurs du département et un Mayennais. Voilà, on a un vrai plaisir de se retrouver. Donc là on commence à jouer aussi dans d'autres endroits que dans des fermes ou que pour des AG paysannes. Et à chaque fois, on a un plaisir fou. On a encore du boulot en termes de musique, mais on dégage une belle énergie. Et puis, on veut aussi dégager du temps pour jouer le maximum.
Donc pour vous entendre, c'est vendredi 17 janvier à partir de 20h à la Chapelle Toireau. L'entrée est de 5€ avec un prix de soutien fixé à 10€. J'avais une dernière question. Au-delà des élections professionnelles là dont on vient de parler, le Premier ministre François Bayrou vient de recevoir les différents syndicats agricoles, dont la Confédération paysanne. Je voulais vous demander un peu comment vous perceviez l'arrivée de ce nouveau gouvernement il y a quelques semaines, avec à la tête sa ministre de l'Agriculture, qui a pour le coup été renouvelée, Annie Genevard. Alors il y a le projet de loi d'orientation agricole qui va arriver au Sénat au mois de février. Pas de grand changement attendu.
C'est triste. C'est un vrai déni démocratique. Enfin, cette femme, Mme Genevard, c'est une pro-pesticide. Ce ministre, il n'est absolument pas légitime parce qu'il représente très très peu de députés. Ce président et sa galaxie, la Macronie, elle est en train de s'effondrer. Et là, on vit une fin de règne. C'est pas digne, c'est très triste. Et voilà, c'est à nous de reprendre ça en main parce que, voilà, mine de rien... C'est aussi de notre faute, hein. Il y a une paresse, un endormissement aussi. On a voté 2 fois pour ce monsieur-là qui se révèle une catastrophe pour notre pays. Donc les dés ne sont pas joués, il y a plein de scrutins à venir, il y a les municipales, et puis il y aura la présidentielle. J'espère qu'il va arriver le plus vite possible. On a aussi le Sénat là, qui est en train de faire n'importe quoi, qui est en train de faire un gros retour de bâton, qui est dans le déni environnemental, qui essaye de passer des...
De détricoter...
En faisant des propositions de programmation de loi pour remettre les néonicotinoïdes, ils sont pas à la hauteur. Je suis assez étonné, mais surtout ça me donne de la force quoi, pour mettre toute mon énergie, pour avoir un meilleur avenir pour mes enfants et pour les enfants de tout le monde.
Samuel Dugas, agriculteur du côté de Baie, à l'est du département, et tête de liste aux élections professionnelles agricoles qui se déroulent. Là, c'est le moment donc des votes du 15 au 31 janvier. Vous représentez la Confédération paysanne d'Ille-et-Vilaine, qu'on retrouve en ligne à la fois sur un site internet dédié et également sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup.
Merci.
Curiosité, c'est terminé. Un programme d'info locale à écouter du lundi au vendredi à 17h40. Et pour les podcasts, ça se passe en ligne sur canalb.fr.